Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Vive tension ce matin au quartier Lac Vert à Goma. Situation consécutive au meurtre doublé de viol d'une déplacée de Sake, acte commis par des individus armés non identifiés. La population en colère a perturbé la circulation sur la route Goma-Sake tout l'avant-midi et demande la sécurisation des sites de déplacés. Début hier à Kinshasa de l'examen des contentieux électoraux pour les députés provinciaux. Sur 21 dossiers alignés pour ce premier jour, 5 ont été traités pour la Gombe, circonscription à siège unique. Et puis, 62 groupements sur les 287 que compte l'Ituri sont partiellement ou totalement administrés par des groupes armés. Révélation de l'inspecteur provincial de la territoriale qui indique que les chefs coutumiers ont perdu leur autorité sur leurs administrés. Godefroy Pouanza est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. La tension était vive ce mardi matin au quartier Lac Vert, dans la commune de Goma. À la base, un cas de meurtre doublé de viol commis par des individus armés dont l'identité n'est pas bien précisée. Ces malheureux événements se sont déroulés dans le camp des déplacés de Lushagala, site CBCA. La population en colère a perturbé la circulation sur la route Goma-Sake tout l'avant-midi en y plaçant des barricades et l'un des bandits rattrapé après coup a subi la justice populaire, le récit de Chris Moukand-Matande.
Des images partagées à travers divers forums montrent un corps calciné gisant au sol, au milieu des curieux. Il s'agit du reste de l'un des deux bandits qui se sont introduits dans l'abri d'un couple de déplacés de Sake, dans le site CBK de Lushagala. Après avoir abusé de la femme, ils ont tiré sur l'homme qui a succombé sur le champ. Le coup de feu qui a alerté le site a donné lieu à la poursuite des malfrats dont l'un a été rattrapé, lynché et passé au feu. Pendant ce temps, une manifestation spontanée des habitants du quartier Lac Vert s'est organisée et des barricades placé sur la route Goma-Sake. On pouvait lire sur les affiches brandies des messages du genre « Nous ne voulons plus de coups de feu à temps et à contre-temps, nous souffrons du jour au jour, l'État nous a déjà abandonnés ». C'est autour des 11 heures que la circulation a repris sur la route Goma-Sake. Face à la multiplicité de cas de banditisme dont sont victimes les déplacés, la société civile suggère que les sites de ses compatriotes, déjà traumatisés par la guerre, soient sécurisés par les éléments de la police militaire. Goma, Chris Moukand, Radio Okapi.
Par ailleurs, la situation est toujours tendue jusque ce mardi dans la zone de Nyanzale, théâtre des affrontements violents hier lundi entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Nous sommes dans la chefferie de Bouito, territoire de Rutshuru, toujours au Nord Kivu. Selon des sources locales, une partie de cette agglomération est passée sous occupation du M23 et une dizaine de civils ont été tués dans ces combats. Bernard Denyangi.
Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues pendant quelques minutes autour de 5 heures locales tôt ce mardi sur la colline Musumba, surplombant Nyanzale, indiquent les sources de la société civile dans la chefferie de Bouito. Ce qui a accentué, selon ces sources, un mouvement de population du village Bualanda, alors que Nyanzale et ses environs restent vidés de près de la majorité de leurs habitants. Pendant ce temps, ces sources indiquent que les rebelles qui occupent depuis hier lundi le village Kiondo, entre Sud et Nyanzale, auraient installé leur position avancée au niveau de Singa, près d'un kilomètre du centre de Nyanzale. Elles ajoutent que les obus largués par les belligérants dans plusieurs notabilités de Nyanzale lors de ce combat d'hier ont fait entre 15 et 18 morts parmi les civils, à part une dizaine de blessés et les dégâts sur la base des casques bleus de la MONUSCO à Kiondo. Sur le front Mabenga, nord de Kiwanja, nos sources indiquent qu'une accalmie s'observe ce mardi. Toutefois, plusieurs villages situés le long de la nationale numéro 2 entre Kaunga et Mabenga sont vidés de leurs habitants qui se concentrent à Kiwanja. Quelques bombes sont tombées dans ce village aussi lors des affrontements hier, faisant des blessés parmi les civils dont le nombre n'est pas encore connu. Goma, Bernard Dinyangi, Radio Okapi.
Et puis, il s'appelle Alengbia Nzambe, général-major. Il est le nouveau commandant de la 34e région militaire du Nord Kivu. Il a pris ses fonctions hier à Goma lors d'une cérémonie de remise et reprise avec le général-major Shora Mabundani, qui était jusque-là à la tête de l'armée au Nord Kivu. Confirmation de la cellule de communication du gouverneur militaire. Notez que le général-major Shora Mabundani n'aura fait qu'un mois en qualité de commandant de la 34e région militaire après avoir remplacé le général général Bruno Mpezo rappelé à Kinshasa. Le général-major Alengbia Nzambe vient de la 11e région militaire dans la province du Congo central. Il dit compter sur le soutien de la population pour mieux gérer les opérations en cours, notamment face aux rebelles du M23 et leurs alliés. Du côté de l'Ituri, on signale 7 morts et 2 blessés graves. Bilan provisoire des affrontements de ce mardi matin entre les groupes armés Codeco et Zaïre dans le village de Mbogi sur le territoire du lac Albert, territoire de Djougou. Selon des sources de sécurité, des assaillants de la Codeco ont attaqué une position de la milice rivale Zaïre dans le but de reprendre le contrôle de cette entité située près d'un nouveau carré minier. Cet incident a entraîné un mouvement de certains habitants de la zone. Martial Kizabiamungu nous en dit plus.
Un groupe d'assaillants de la milice Codeco venu de la localité des Peigny dans les secteurs de Walendutatsi a lancé vers 5h locales une attaque contre une position de miliciens de l'autodéfense de Zaïre à Mbogi dans le groupement Le Centrement de la chefferie de Baïman Nord. Des sources de sécurité qui citent des témoins indiquent que des combattants de la Codeco avaient comme objectif de déloger les miliciens de Zaïre et cette entité qu'ils occupaient il y a 3 mois. Les bilans provisoires, selon les services de sécurité, parlent de 4 morts et blessés du côté de la Codeco et 3 morts et 2 blessés dans les rangs du groupe armé Zaïre. Plusieurs sources locales affirment que les deux camps se disputeraient la gestion d'un nouveau gisement d'or à Café, localité proche d'Mbogi, toujours sur le littoral du lac Albert. Certaines familles d'Mbogi, par crainte pour leur vie, ont pris des pirogues pour fuir vers Tchobian et Mouvarama. La société civile locale appelle l'armée à se déployer dans cette zone pour y imposer l'autorité de l'État. Les porte-parole des FARC d'essai à l'Ituri promet de se prononcer dans les heures qui suivent. Bougnard, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Situation sécuritaire dans le territoire de Kwamout. Un nouvel accrochage a été enregistré dans la nuit de dimanche à hier lundi entre les FARDC et la milice Mobondo. C'est à environ 4 km du village Doumou sur l'axe Massiambio-Kwamout dans la province de Maïndombe. Le chef du village Kimomo, localité voisine qui livre cette information, rapporte qu'au moins 3 personnes ont été tuées, dont 2 miliciens Mobondo et 1 militaire et 2 autres militaires blessés lors de ces affrontements. Stani Libye indique que ces assaillants qui s'apprêtaient à attaquer la cité de Kwamout ont été mis en déroute par l'armée jusqu'à environ 90 km de cette cité. La même source ajoute que Kwamout cité reçoit actuellement une nouvelle vague de déplacés venus des villages environnants de Doumou. Stani Libye invite le gouvernement congolais à renforcer les dispositifs sécuritaires dans ce coin du pays. Province du Tanganyika, un conflit coutumier dans la chefferie de Bayazi, territoire de Congolo, a fait 1 mort hier et des arrestations sont signalées. Un groupe de personnes qui contestent l'autorité du chef de chefferie, Shenge Salumu, a voulu installer par force un chef autoproclamé, rapporte des sources sur place. La police a tiré des balles en l'air pour disperser les manifestants. Paulin Munanga nous relate les faits.
Tout a commencé dans la matinée de ce lundi. 2 familles se disputent le trône dans la chefferie de Bayazi, territoire des Congolos. Un groupe de personnes qui soutient l'une des familles en conflit s'est décidé d'aller installer par force le chef de chefferie autoproclamé. Témoignage du chef de chefferie Mwana Kitenge Mwine Kintu. Ils sont venus pour détruire les bureaux et installer par force leur chef coutumier. Ils portaient des fétiches et avaient des armes blanches. Ils scandaient des chansons. Les policiers ont sommé les manifestants de ne pas avancer. Puis ils ont tiré des balles en l'air. Les manifestants se sont dispersés. La personne qui est morte a été victime de la tension artérielle. L'administrateur du territoire de Congolo rappelle à ses administrés que le pouvoir coutumier se transmet suivant une procédure bien définie. Ngongo Mbokamiba. Nous attirons une attention particulière aux habitants de toutes les chefferies de Congolo. Il y a une procédure pour accéder au pouvoir coutumier. Actuellement, les conflits coutumiers se traitent devant la commission dénommée CRCC. Nous avertissons la population que le désordre n'est pas le chemin à suivre pour réclamer le pouvoir.
Il y a quoi réclamer pouvoir.
Les activités ont été paralysées pendant toute la journée de ce lundi à Congolo suite à cette tension qui a prévalu dans la chefferie de Bayazi. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, le monde célèbre aujourd'hui 5 mars, la journée internationale de sensibilisation au désarmement et à la non-prolifération. Objectif, promouvoir une plus grande sensibilisation et une meilleure compréhension des questions de désarmement auprès du public et notamment des jeunes. À cette occasion, Radio Capi s'est intéressée au travail du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS et la MONUSCO dans la démobilisation des combattants des groupes armés à Beni, Butembo et Lubero, région du Nord Kivu où des jeunes sont souvent recrutés par des groupes armés. Martial Papimukeba nous en parle.
Avec une dizaine de groupes armés locaux, la région de Beni, Butembo et Lubero compte à ces jours plusieurs combattants armés. Les PDDRCS s'emploient à leur sensibilisation, désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire pour lutter contre l'insécurité dans la région. Eric Katembo Masinda est chef d'antenne du PDDRCS pour Butembo et Lubero, il explique.
La sensibilisation est accrue à territoire de Lubero. Aujourd'hui, le site de Kassando compte plus de 200 ex-combattants venus avec armes et munitions de guerre et nous diminuons la circulation des armes et munitions de guerre.
Un travail qui bénéficie régulièrement de l'appui de la MONUSCO, comme l'explique Jean-Toby Okala, responsable de l'information publique de la mission de l'ONU à Beni.
Nous organisons des formations au profit des agents de la CNCALPC sur le traçage et le marquage d'une arme. Nous aidons à sécuriser ces armes par la construction d'armureries. Nous faisons des sensibilisations au danger des armes en faisant passer une idée simple qui est que la bonne place pour une arme, ce n'est pas dans le dos du combattant, mais plutôt dans une armée.
Depuis les débuts du mois, des formations et sensibilisations de ces genres ont été organisées par la MONUSCO à Beni. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Je vous l'ai dit dans les titres, la cour d'appel de la Gombe à Kinshasa a débuté hier lundi l'examen des contentieux électoraux pour les députés provinciaux à la Chambre unique. 21 dossiers ont été alignés pour ce premier jour. Ils concernent les circonscriptions de la Gombe, Ngiringiri, Kintambo, Makala et Lingwala. Babel Mpongo Masimango et Marie-France Mungindu ont assisté au traitement des dossiers de la Gombe. Elles nous en parlent dans ce reportage.
7 dossiers ont été traités ce jour pour la Gombe, circonscription à siège unique remportée par Fiston Bloukwebo de l'FDCA. Toutes les affaires concernaient donc des regroupements comme le MLC, l'UDPS, Tshisekedi, RCDT, 1AA ou AAEC contre l'FDCA et la CENI. Maître Kipoulou Samba du barreau de Matete, avocat de 1AA, explique le dossier qui le concerne.
Lui Makamba a toujours été élu à la Gombe depuis 2018. Curieusement, cette fois-ci, la CENI ne l'a pas proclamé. Le PV que nous détenons, nous donne plus de voix que celui qui a été proclamé. Donny a 3000 et quelques voix. Celui qui a été proclamé a moins de voix.
À la fin de ces 5 affaires, Maître Pukutakwala, qui a conduit les avocats de l'AFDCA, se veut serein.
Le ministère public a déclaré toutes les affaires irrécevables. Cela veut dire que c'est en faveur de notre client parce que tous les regroupements qui l'ont attaqué n'ont pas accompli les conditions exigées par la loi. La plupart n'ont pas atteint le seuil de représentativité. Tous ces regroupements ont donné des procurations, mais la qualité n'a pas été respectée. Le preuve, tout le monde a vu que la CENI n'a pas permis à ce qu'on ait de PV. Mais le juge, il faut lui amener les résultats et non spéculer.
Pour tous les 4 traités pour la Gombe, la CENI a appelé la Cour à confirmer les résultats qu'elle a publiés. La décision de la Cour est attendue le 14 mars.
Sud Kivu, les mandats des 44 députés provinciaux ont été validés hier. C'était au cours de la plénière tenue par le bureau provisoire de cet organe délibérant. Sur place, un ministre membre du gouvernement central, frappé par incompatibilité, a officiellement cédé son siège. D'autres sont obligés de faire le choix dans les 8 jours. Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
La validation des mandats des députés provinciaux du Sud Kivu est le résultat du travail des 8 commissions mises en place la semaine dernière. Ainsi, tous les 44 peuvent déjà siéger en attendant la validation prochaine des 4 chefs coutumiers déjà cooptés par la CENI comme députés provinciaux. Voilà pourquoi les actuels membres du gouvernement central ou provincial et autres mandataires validés à ce jour doivent opérer les choix afin d'éviter le cumul. Anani Lunanga, rapporteur.
Ces députés qui sont frappés par incompatibilité, ils ont 8 jours pour renoncer à leur mandat. Et s'ils ne renoncent pas, nous allons constater qu'ils vont perdre leur siège.
Sur place, au cours de la même plénière, un membre du gouvernement central, dont le mandat venait d'être validé, a saisi le bureau pour céder son siège. Signalons que ces mandats sont validés au même moment où la cour d'appel de Bukavu venait de clôturer avec l'examen des contentieux électoraux de 34 requêtes en contestation des résultats de la CENI sur l'Assemblée provinciale. Le verdict est attendu avant le 28 mars prochain. Emmanuel Elameji Wakabedi, Bukavu Radio Kapi.
À Beni, parlons des conséquences des inégalités dont les femmes sont victimes sur le développement de la nation. Le coordonnateur de l'ONG Forum de paix de Beni, Justin Matete, estime que le fait de ne pas associer les femmes à la prise de décision et dans la formation est un obstacle majeur dans le processus de progression de la région. Il recommande aux femmes de recourir aux lois qui existent et de faire pression pour que les décideurs appliquent ce que le législateur a voté. Justin Matete l'a dit au micro de Blaise Makassi.
Il y a une des dispositions contenues dans la Constitution qui dit que tous les hommes naissent égaux. C'est qu'on ne peut pas parler du développement de la femme sans adjoindre cette femme même dans ses réflexions ou sa promotion. Et c'est ce qui échappe même la femme elle-même. Il y a une chose qui ne marche pas en termes de prise de conscience ainsi que de mise en place d'un mécanisme cohérent ou alors approprié par rapport au contexte d'abord et au problème lui-même lié à la femme. Le fait que la femme n'est pas associée à la considération par l'humanité en elle, ça veut dire elle va continuer à se déconsidérer. C'est que nous devons à un niveau nous rassurer qu'à l'absence de l'un, je parle l'homme, l'autre peut couvrir les vices et sans problème. Et l'autre là, c'est la femme. Parce que c'est bien bon de dire nous voulons promouvoir les femmes, mais si à un niveau ces mêmes femmes ne sont pas informées sur les enjeux, ce sera les offenser.
Actualité internationale. Nous sommes en Haïti. Des gangs lourdement armés ont tenté de prendre le contrôle du principal aéroport international du pays. Des échanges de coups de feu ont éclaté entre ces gangs et les forces de l'ordre. Cette attaque contre des sites clés du gouvernement est la dernière en date dans un contexte de forte violence marqué par l'évasion massive des détenus des deux plus grandes prisons du pays.
L'invité.
62 groupements sur les 287 que compte l'Ituri sont partiellement ou totalement administrés par des groupes armés. C'est ce que déclare l'inspecteur provincial de la territoriale dans une interview lundi à Radio Kapi. Godefroy Poanza indique que ces miliciens n'obéissent pas aux ordres des chefs coutumiers. Ces derniers ont perdu leur autorité sur leurs administrés, ce qui entrave le bon fonctionnement, ajoute-t-il, de ces entités où il y a absence de l'autorité de l'État. Godefroy Poanza, inspecteur provincial de la territoriale, et notre invité à ce sujet, il répond aux questions de Jean-Claude Loki.
Godefroy Poanza, bonjour. Quelles sont les grandes lignes ou les grandes résolutions qu'on peut retenir de cet atelier organisé à l'intention des chefs coutumiers de l'Ituri?
Oui, parce que le problème des conflits du pouvoir coutumier doit être réglé par les coutumiers eux-mêmes. Donc, ce ne sont pas les territoriaux, les administrateurs du territoire, les chefs de chefferie ou encore la province qui doivent commencer à statuer les cas de problèmes de conflits coutumiers. Et après cette opération, nous allons aussi défendre dans tous les territoires, aller dans les chefferies et secteurs, mettre la même structure au niveau des chefferies. Au niveau des chefferies, cette commission va résoudre les problèmes de conflits qui se posent au niveau des chefs de groupement et des chefs de chefferie.
Godefroy Poanza, mais vous le savez bien, il y a des entités qui sont sous le contrôle des groupes armés, notamment dans les territoires de Djougou, Irum, Mambasa, donc Bahagi aussi, voilà. La fois passée, les chefs coutumiers se sont plaints du fait qu'il y a des entités où ils n'ont pas accès. Dans ces zones-là, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudra faire pour que les chefs coutumiers exercent pleinement leur pouvoir comme les stupides à la loi?
Alors, nous avons saisi l'opportunité, lorsqu'on a dû réunir tous les chefs de chefferie et secteur, nous avons identifié ces endroits-là, ces entités-là, et prochainement, il y aura une rencontre à Arou, il y aura Arou D, qui va réunir cette fois-là les responsables des entités ainsi que les groupes armés, les responsables des groupes armés. On va le réunir ensemble pour les faire voir, voilà. Vous avez déjà signé des accords unilatéraux de cessation des hostilités. Comment vous devez encore continuer à gérer parallèlement avec les autorités attitrées? Donc, on va se le réunir pour les faire voir qu'ils doivent cesser d'empêcher l'exercice de le pouvoir de l'État dans ces entités-là. Donc, il y a une autre rencontre qui est prévue. Nous avons déjà l'état des lieux de l'ensemble des entités qui sont occupées. Sur 287 groupements, par exemple, il y a une soixantaine de groupements, des entités où on ne peut pas bien accéder. Donc, il y a des administrations parallèles, même si on accède, mais il y a l'exercice du pouvoir de manière parallèle. C'est ainsi qu'une rencontre qui sera dans les jours, dans les tout prochains jours. On va réunir tous ces responsables du groupe armé, ensemble avec les chefs coutumiers, les chefs de chefferie, etc. On va passer en revue le problème pour qu'on puisse trouver une solution par rapport à ça.
Et cela a quoi comme impact, comme conséquence négative sur le bon fonctionnement de ces entités coutumières?
Non, je donne la précision. Je dis que sur 287 groupements, il y a 62 pour être précis, il y a 62 où il y a une habilitation partiellement parallèle. Voilà. Donc on trouve un chef coutumier qui est là et peut-être il ne peut pas accéder dans certains villages. Il y a des groupes d'armées qui ils dirigent d'une manière parallèle. C'est ainsi qu'on va les réunir pour qu'on puisse trouver cette solution-là. Lorsque les groupes armés arrivent à administrer, on ne fait pas des choses d'une manière loyale. Donc on impose des taxes et ainsi de suite. Il y a aussi difficulté de ces gens-là qui ne sont pas à même de donner les ordres aux autres. Donc il n'y a même pas une hiérarchisation. Il y a certaines personnes qui n'obéissent pas à leur hiérarchie. Nous voulons la paix, rien que la paix.
Mais nous apprenons que ces groupes armés, les leaders de ces groupes armés contrôlent aussi des carrés miniers, des concessions ou des sites miniers. Pensez-vous qu'ils sont prêts à lâcher si facilement comme vous le pensez?
Avec le temps, on utilise la politique de bâton des carottes, pour ceux-là qui ne vont pas accepter, le pouvoir appartient, la force appartient à l'État. Pour le bébé égaré, galèse, qui ne veulent pas respecter, qui ne veulent pas tempérer aux ordres. Donc, on va les frapper. L'autorité va finalement pas. On va décider à les frapper. Parce qu'on ne peut pas continuer ainsi.
Godefa Pouanza, je vous dis merci.
Merci.
L'inspecteur provincial de la territoriale en Ituri répondait aux questions de Jean-Claude Loki. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.